comme 7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI, 7 milliards de voisins. Nous sommes dans le grand chassé-croisé de la mondialisation aujourd'hui. Monter dans un avion et trouver un job à la hauteur de ses compétences et de ses appétits financiers. Voilà, le grand manège effectivement de l'expatriation. Est-il en train de changer avec la crise en Europe en arrière-plan? Nous parlons de la mobilité professionnelle avec nos invités, le sociologue Philippe Pierre, Université Paris Dauphine, et Patricia Glazel de Berlitz Consulting. Alors, une enquête intéressante vient de paraître aujourd'hui même, qui est commandée par la banque HSBC pour la 5e année consécutive. Nous sommes en ligne avec François Moreau, qui est secrétaire général de HSBC France pour la banque de particuliers et la gestion de patrimoine. Bonjour François Moreau.
Oui, bonjour.
Les turbulences économiques et la globalisation en même temps ont-elles un impact sur les choix des expatriés à la lumière de votre enquête?
Alors elles ont un choix, mais qui est quand même relatif, parce qu'on regarde par exemple la zone euro. Les expatriés qui sont exprimés dans le cadre de l'étude manifestent de toute évidence une inquiétude et une perception très nette de la détérioration économique. En revanche, ça ne modifie pas leur désir d'y rester. Donc ils maintiennent leur intérêt pour être en France, en Espagne, en Italie, sans pour autant en étant en même temps très conscient des difficultés traversées par la zone euro. Il y a une exception en Europe, c'est l'Allemagne qui elle a une note beaucoup plus positive sur la perception que les expatriés en ont.
Ouais. Par rapport à il y a quelques années, vous voulez dire aussi?
Alors, l'Allemagne a toujours eu des scores assez élevés dans l'enquête. C'est vrai que par contre, la zone euro était pas un sujet de préoccupation chez les expatriés, qui n'étaient pas particulièrement préoccupés par une détérioration économique. Alors que là, il y a une dégradation extrêmement nette, notamment en Espagne et en Italie, un petit peu en France dans une moindre mesure. Et également, l'Angleterre est pas mal affectée.
Alors, vous avez interrogé à peu près 5000 expats qui vivent dans le monde entier.
Absolument. Donc c'est une étude que nous menons chaque année, donc c'est la 5e édition. L'idée consiste à aller interroger des expatriés dans près de 100 pays dans le monde et de faire un baromètre ou de prendre la température de leur perception. Nous avons trois grands piliers d'analyse. Un premier qui porte sur la dimension économique, où est-ce qu'il est attractif de travailler en tant qu'expatrié. Un deuxième volet qui porte sur la qualité de vie, qui regroupe une trentaine de critères aussi variés que le transport, le logement, la gastronomie, la culture, mais aussi la facilité de s'intégrer. Et puis un troisième volet qui est plus spécifique aux enfants, autour de l'éducation et de la facilité ou pas des enfants de pouvoir s'intégrer dans le pays d'accueil.
Votre échantillon de 5000 expats, ce sont essentiellement des cadres très supérieurs?
Non, alors c'est vraiment des expatriés au sens n'habitant pas dans son pays d'origine. Donc ça va de l'étudiant jusqu'au retraité. Et on va voir d'ailleurs qu'en France, on a un fort poids des retraités expatriés en France.
Alors cette année en tout cas, sur cet échantillon de 5000 expatriés au sens très large du terme, c'est l'Asie du Sud-Est qui est devenue la région, selon l'enquête, privilégiée des expatriés.
Alors absolument, c'est vrai que l'Asie était en forte croissance depuis quelques années. Là, on constate cette année que l'Asie gagne sur deux tableaux, à savoir la dimension économique. Donc l'Asie est perçue comme étant la région la plus attractive d'un point de vue économique, mais également sur la dimension qualité de vie. Et on retrouve des pays comme Singapour, par exemple, ou Hong Kong.
Qui est numéro 1, là, maintenant, Singapour.
Singapour est en tête. Alors, il était déjà bien placé l'année dernière. Mais là, c'est un pays qui maintenant score sur les deux tableaux, c'est-à-dire qu'il score et en dimension économique. Et un chiffre intéressant, c'est de voir que, par exemple, plus de 50%, 54% pour être précis, des expatriés habitant à Singapour gagnent plus de 200 000 dollars par an. Donc on voit que ça concentre des
C'est confortable, oui.
C'est assez confortable. À l'inverse, on voit que autant Singapour n'était pas spécialement publicité pour sa qualité de vie, là cette année, elle est classée 4e grâce à la qualité de ses infrastructures, de ses capacités de logement, sa gastronomie. Également.
Et donc, ça veut dire aussi qu'on a du pouvoir d'achat, parce qu'effectivement, un salaire brut ne veut pas dire grand-chose. Il faut savoir, effectivement, quel niveau de vie on peut avoir. On a donc Singapour en numéro 1, on a la Thaïlande en numéro 3, on a Hong Kong en numéro 4, on a la Chine qui n'arrive qu'en 7e position, le Vietnam aussi en 10e position. Donc, 5 pays d'Asie du Sud-Est, quand même, dans le top 10 des pays qui ont la faveur des expatriés.
Absolument. Alors ça, là, c'est effectivement le classement que vous citez, c'est sur le volet économique. C'est intéressant là encore de voir que ça, la combinaison de cette dimension économique avec la dimension qualité de vie est de plus en plus forte en combinant ces deux aspects pour la partie Asie. J'en veux pour preuve, par exemple, même la Chine, qui est quand même pas réputée pour une qualité de vie au départ très importante, se classe 22e en matière de qualité de vie. Hein, donc c'est un positionnement qui est assez nouveau. Là encore, il y a eu beaucoup d'efforts de fait en Chine, et une qualité de vie qui s'est améliorée. Et alors, à l'inverse, vous parliez de pouvoir d'achat. C'est intéressant de souligner que le Moyen-Orient, par exemple, qui présente des critères assez élevés en matière d'attractivité économique.
Donc de salaire, pour parler clairement.
Alors de salaire net, c'est-à-dire que il y a la dimension salaire, mais il y a aussi la dimension impôt, qu'il faut évidemment prendre en compte. Sur le net, on a des expatriés en Moyen-Orient qui manifestent une moindre intégration et un désir de moins d'y rester moins longtemps que ce qu'on voit en Asie. Ouais. Donc là, il y a vraiment un contraste avec la qualité de vie et le pouvoir d'achat.
Ouais. L'Arabie Saoudite est choisie beaucoup par des jeunes, sous-entendu célibataire, ça c'est ce qu'on peut imaginer.
Absolument, et avec encore quelque chose de très très marquant dans l'étude, c'est que les expatriés qui travaillent dans les pays du Moyen-Orient, pour la plupart des pays du Moyen-Orient, vivent avec comme référence leur pays de départ. Donc ils sont beaucoup moins intégrés et ils ont l'intention d'y passer 2, 3, 4 ans, mais avec le désir de repartir derrière. Mmh. Ce qui n'est pas du tout ce qu'on constate en Asie, alors encore moins en Europe, où le sentiment d'appartenance ou de rester longtemps est beaucoup plus fort en Europe. Mmh.
Est-ce qu'on s'expatrie avant tout pour l'argent, François Moreau ?
Je crois pas. Il y a des gens qui s'expatrient que pour l'argent. Je crois que beaucoup de gens s'expatrient pour apprendre autre chose. Moi, j'ai par exemple été expatrié dans ma vie plus de 8 ans et je l'ai été à des fins plutôt d'enrichissement personnel et non pas financier, c'est-à-dire découvrir d'autres cultures, d'autres pays, faire permettre à ses enfants de connaître d'autres langues et d'autres cultures, voire d'autres civilisations. Je pense que c'est plus ce type d'enrichissement que beaucoup d'expatriés recherchent. Après, il y a aussi évidemment la spécificité des retraités. Beaucoup d'expatriés qui prennent leur retraite dans un pays qui n'est pas leur pays d'origine. Je pense notamment en France, on a beaucoup d'expatriés anglo-saxons qui habitent dans le sud de la France. Eux, ils recherchent évidemment la qualité de vie, la gastronomie, le climat, bien entendu.
Voilà, enfin, ils sont retraités, effectivement.
Absolument.
Votre banque HSBC, François Moreau, c'est une banque, bien sûr internationale, mais combien de salariés vivent dans un autre pays que le leur ?
Alors, c'est une bonne question. Je n'aurais pas pu vous répondre comme ça. On a le chiffre en France, on a une centaine d'expatriés et une centaine d'impatriés.
Et c'est un enjeu important pour une banque comme la vôtre.
Alors oui, parce que HSBC est effectivement une banque présente dans 80 pays, et donc notre brassage international est très important. J'en veux pour preuve que là encore, moi j'ai travaillé dans 4 pays différents pour HSBC, et donc j'ai rencontré beaucoup beaucoup de nationalités. L'équipe que je dirigeais par exemple au Japon, j'avais dans les équipes 14 nationalités, vous voyez, donc il y a un brassage très important qui fait, je crois, la richesse d'un groupe international.
Alors, c'est intéressant parce que, restez en ligne avec nous, François Moreau, je vais laisser aussi réagir Patricia Glazel et Philippe Pierre, mais votre étude a évidemment fait l'objet de pas mal de parutions dans la presse, puisque ça sort tout juste, là. Dans le journal Economic Challenge, il y a un article sur votre étude, et puis derrière, vous savez, il y a les internautes sur le site internet qui réagissent, donc là, les gens se lâchent, et voilà ce qu'on peut lire comme commentaire. Ça sert à quoi de gagner beaucoup d'argent dans un pays où il n'y a rien à faire, Shanghai, Singapour, Dubaï, l'horreur totale, là il n'y a vraiment rien à faire. Je connais Dubaï, je connais Shanghai, je connais Hong Kong, Sao Paulo, New York. Vraiment, je ne comprends pas comment on peut choisir ces endroits-là face à un chalet à la montagne. Poursuit cet internaute, on peut correctement gagner sa vie en France, remplir son frigo, nourrir ses enfants, leur apprendre ce qu'il faut au lieu de les trimballer au golf club de Singapour et les dresser comme des singes savants.
Ouf, c'est rude au moins.
Patricia Glazel, vous trouvez ça...
Je trouve ça, effectivement, c'est révélateur aussi d'une des perspectives peut-être de gens qui clairement vont pas choisir de s'expatrier ou tout cas l'ont largement remis en cause.
C'est quelqu'un qui en tout cas a beaucoup voyagé.
Qui a vu, mais je pense pas que cette personne se soit jamais intégrée parce que justement le piège de l'expatriation, et c'est ce qui va apparaître dans des recherches plus approfondies que je mène actuellement avec André Laurent de l'INSEAD, c'est qu'on ne va jamais être intégré à d'autres cultures tant qu'on n'a pas eu la capacité possibilité de se remettre en cause sa propre culture et de se réconcilier en même temps avec elle. Donc on a un moment où effectivement on va remettre en cause toutes les cultures que l'on rencontre. Celui-là, c'est vraiment le premier choc, ça s'appelle le choc culturel. Puis on va tout doucement rejeter sa propre culture, mais en fait il faudra apprendre à la repousser pour mieux l'observer et être ouvert à ce moment-là à aller voir ce que les autres cultures nous apportent. Donc apparemment cet internaute était dans une phase qui est bien connue hein, quand on l'analyse.
C'est très français aussi ça, hein, ce genre de réaction quand même. Hein. Bah, c'est vrai que les gens en France aiment leur pays. Hein, c'est un pays.
Au final, il n'y a que 1% de la population du globe qui bouge aujourd'hui. Donc il faut savoir qu'on parle avec facilité.
Ouais. Et puis on a quoi 2 millions de Français qui sont à l'extérieur.
2 millions hein, et demi, beaucoup. Voilà. Oui.
Bah, vous avez 200 millions de migrants à l'échelle mondiale. Et donc ça représente oui, un petit peu plus, 3% de la population mondiale. Là, on parle ensemble des expatriés. Moi, ce qui me frappe, c'est la diversité des profils. Hein. Entre ces personnes qui décident de partager du bridge, du yachting, d'être dans ce que j'appelle l'entre-soi, c'est d'ailleurs pas forcément un choix, ça peut être aussi lié... Ah,
c'était ça, l'allusion, eh oui, hein, là, du commentaire.
Exactement,
quand même, hein.
Et ça peut être lié aussi au risque physique que vous encourez à l'étranger. Ça, c'est une dimension tout à fait intéressante aussi de la mobilité internationale. Alors ça, c'est l'entre-soi.
Donc il faut quand même pas se voiler la face, hein. Tout n'est pas rose au pays de la... Enfin,
non,
je veux dire,
je parle souvent de la face sombre de la conquête. C'est-à-dire, en fait, les difficultés que vous avez quand vous partez à l'international et qu'à un moment donné, en fait, vos codes familiers sont en quelque sorte rompus. Mais c'est en même temps le moment où il faut aller à la rencontre de tiers, de médiateurs, de gens qui vous expliquent le pays.
François Moreau, vous vouliez réagir ?
Oui, c'est vrai que il me semble pas évident d'opposer. Enfin, je comprends la réaction de l'internaute, mais il est pas facile d'opposer, je trouve, deux modes de vie. On peut être très heureux en France et très heureux à l'expatriation. Je crois que la motivation, là encore financière, n'est pas du tout. Alors, on la retrouve.
Alors, attendez, sur la motivation financière, vous êtes quand même un peu langue de bois. Tous les expats le reconnaissent. Ils sont partis, ils sont revenus, quand même les poches pleines.
Pas tous. Je constate aussi que les conditions d'expatriation que je peux constater de ci de là ou auprès de mes proches, ce sont quand même moins, enfin sont moins généreusement dotées que ce qu'on a pu voir par le passé, qu'il y a 20 ans.
Oui.
Moi, je peux prendre l'exemple de mon père qui a été expatrié il y a près de 30 ans. Il avait des packages qui n'existent plus aujourd'hui, quoi. Donc, je crois que l'enrichissement, c'est un peu. Alors, évidemment que c'est un levier, mais je pense qu'il est beaucoup moins puissant que ce qu'on pense. Et j'ai croisé, par exemple, à Hong Kong, beaucoup de jeunes expatriés qui étaient un peu mieux traités en termes de conditions que s'ils étaient restés en France, mais c'était pas leur motivation première et l'écart était pas si important que ça.
Parce qu'il faut pointer
Philippe Pierre, oui, sur la motivation de l'argent.
Il faut aussi sur l'argent. Moi, je crois que c'est un des déterminants. Hein. Quand autrefois vous étiez avec un différentiel de coût de vie important et que vous partiez au Nigeria en prenant des risques, hein, mais en faisant l'acquisition sur place de compétences importantes à Port Harcourt ou à Lagos, l'argent ça compte. Aujourd'hui, on part pour un tremplin de carrière, c'est vrai. On part aussi parfois pour des raisons subies. Ça, c'est un point important. C'est-à-dire, on décide pas de partir. Même chez les cadres à haut niveau. Vous avez des soulèvements politiques en Afrique ou dans d'autres régions du globe qui vous amènent à devoir partir. Ça aussi, c'est une des réalités nouvelles de l'expatriation intéressante à prendre en compte. Donc, et puis, attention à avoir un profil qui soit pas trop anonyme. Hein. Si vous êtes une jeune femme à Shanghai, vous avez peut-être moins de facilité à vous insérer dans le tissu local qu'un jeune homme à Shanghai, aujourd'hui, en tant que mobilité internationale.
Oui, ma part, je trouve que l'argent, effectivement, n'est plus un vrai levier. Et en tout cas, il est mensonger bien souvent. Bien souvent, les expatriés vont être engagés dans des frais bien supérieurs à ceux qu'ils auraient investis en restant dans leur pays d'origine. Les sociétés ne sont plus aussi généreuses. Et on a des gens
Parce
qui souvent...
En fait, on peut partir à l'expatriation sans vraiment bénéficier de ce qu'on appelle d'un
Absolument.
D'un contrat d'expat. On
Absolument.
Peut être aussi au local. Hein,
on peut être local, on peut être détaché. Et bien souvent même, les contrats d'expatriation, à part dans certaines entreprises, ne sont plus ce qu'ils ont été. Donc je pense que l'argent, bien sûr, va motiver, parce que sinon on n'aurait pas grand monde pour partir, à vrai dire. Donc il faut bien les aider à prendre la décision d'aller habiter ailleurs, d'aller mettre leurs enfants ailleurs à l'école. Et je pense que l'argent reste un levier neutre et motivant, mais il ne va pas leur permettre de faire fortune. Loin de là. Au contraire, je suis surprise par le nombre d'expatriés qui rentrent, au fond, en ayant des gens qui sont restés sur place et qui, au final... ont mieux investi dans leur pays d'origine et se retrouvent mieux placés au niveau financier. Donc je pense que là, on repose sur des idées un peu anciennes.
François Moreau pour HSBC France.
Ouais, moi je suis assez d'accord avec ce que vous venez de dire, madame. Moi je crois que c'est des tendances qu'on constate. Il y a aussi, là encore, il y a aussi une question de destination. Il y a des destinations où on va plus volontiers dans une logique de constitution de patrimoine. Hein, typiquement, là, on parlait de l'Arabie Saoudite ou de Dubaï, qui effectivement sont des endroits qui présentent un caractère assez artificiel dans le mode de vie. Hein. Je connais assez bien Dubaï. C'est vrai que pas chez les shopping centers, il n'y a pas une onde d'activité débordante, quoi. À l'inverse, sans tomber dans le cliché, il y a des destinations. Bon, l'internaute parlait également de Shanghai ou de Singapour. Enfin, Shanghai, c'est une ville absolument fascinante.
Ouais, le Brésil.
Absolument. Donc, je crois qu'il faut.
Très bien. Merci beaucoup, François Moreau, pour HSBC France, pour cette enquête donc qui paraît aujourd'hui. On marque une petite pause musicale et vous pouvez nous appeler au 33 1 56 40 21 71. Condé Bemba chez 7 milliards de voisins sur RFI. Nous parlons de l'expatriation au sens très large du terme. Tous ceux qui ont un métier qualifié et qui vivent et travaillent en dehors de leur pays. Alors, il y a quand même beaucoup d'idées reçues. Alors, on en a balayé certaines encore que. Mais Patricia Glazel et Philippe Pierre, aujourd'hui, avec l'omniprésence d'Internet, l'accès à tout type d'informations, est-ce que vous trouvez qu'il y a encore des idées reçues, par exemple, sur les destinations? Je pense à un truc qui revient tout le temps, c'est le rêve du Canada. Tout le monde est persuadé. Alors, est-ce que là, il y a des choses à déconstruire ou pas tant que ça, Philippe Pierre?
Oui, parce que le rêve, en fait, c'est de croire que la vie sera plus facile ailleurs et qu'on ne sera pas notamment victime de discrimination. Mmh. Pourquoi on part pour beaucoup, en fait, de jeunes aujourd'hui dans nos sociétés? Eh bien, c'est pour fuir, en quelque sorte, ce qu'ils vivent au quotidien. Le fait d'être traité défavorablement en fonction d'une couleur de peau, d'un patronyme, d'une situation vécue. Or, au Canada, vous avez aussi des phénomènes à l'œuvre de discrimination. Même si c'est un pays qui réfléchit aux conditions du vivre ensemble, même si c'est un pays qui a une longue tradition d'accueil. Donc là, il faut se méfier des idées reçues qui consistent à penser que l'herbe est plus verte ailleurs.
C'est vraiment un pays, je dirais, qui séduit autant un ingénieur informaticien africain subsaharien que, je sais pas moi, un jeune en ressources humaines en France.
Hein. Oui, parce que c'est un pays en fait qui a réussi à tisser des liens entre l'univers des entreprises et puis les cercles universitaires et académiques. numérique. Et ça, je crois que c'est une piste pour nous, Français, de faire que des mondes qui parfois s'ignorent se rapprochent. Et en cela, le Canada est intéressant pour nous.
Ouais. Et je pense que ce sont des pays desquels on doit retirer aussi l'idée d'attirer les talents. Ce sont des pays qui sont ouverts à l'idée que apporter d'autres valeurs, d'autres représentations était un plus pour eux et qui ont invité en particulier le monde francophone à venir. Donc c'est clair. Le pays qui reste encore...
Donc c'est vraiment une super destination finalement. Ça n'est pas une idée reçue de dire que
c'est... Non, mais il a raison de dire, Philippe, que quand on... l'atterrissage peut être parfois douloureux et l'intégration ne se fait pas seule.
Frisqué,
parce que là
frisqué,
encore,
c'est ça, vous voulez dire.
Les cadres culturels, non, ça peut être fantastiquement réussi, mais il faut l'avoir préparé. Et c'est là où j'aimerais qu'on sorte un peu justement des idées reçues. On est retombé dans les ornières des salaires des expatriés, des destinations. Aujourd'hui, on se rend compte que les destinations ont largement évolué. Les destinations bougent. Le Brésil est devenu, comme Issa en parlait, et c'est fantastique de voir qu'il est sénégalais au Brésil aujourd'hui, qu'il l'aurait pensé il y a 15-20 ans. Aujourd'hui, les destinations qui attirent restent les États-Unis parce que c'est un monde ouvert de brassage où les potentiels peuvent s'exprimer. Mais c'est vrai, suivi de près par l'Asie du Sud-Est, certes, mais qui est dans une autre approche. On voit clairement le Brésil, l'Inde et l'Afrique noire qui bouge énormément, qui attire, qui a besoin de bouger.
L'Afrique subsaharienne, alors pour quel genre de secteur ?
Bancaire, on va retrouver des grandes entreprises qui vont s'y installer dans l'agroalimentaire, l'énergie. Dans les services, l'énergie plus que jamais, bien sûr. Donc, on va voir qu'on va avoir besoin de talents qui ne sont pas là, puisqu'ils sont partis. Donc, je trouve que toute l'idée de la globalisation, c'est plutôt se passionner, non pas sur les salaires, non pas sur les enfants qu'on trimballe, mais comment on construit une puissance de frappe qui vous permette d'avoir des talents aux endroits où vous en avez besoin, au moment où vous en avez besoin, de faire en sorte que ce monsieur Issa, qui nous parlait du Brésil, ait envie de repartir dans son pays, que la France, même quand elle récupère ses expatriés, puisse en tirer le meilleur parti pour devenir plus ouverte, plus globale, et non pas se resserrer sur leur salaire, qu'est-ce qu'ils ont fait, où est-ce qu'ils ont... Il y a un potentiel fantastique, c'est celui de la globalisation, et on n'en prend pas vraiment la mesure.
Philippe Pierre.
Oui, moi je suis en fait souvent défendeur, je défends une idée forte, c'est il y a pas en fait une internationale des cadres. Il n'y a pas de cadre partout adaptable et qui volerait comme des hélicoptères pour, en quelque sorte, être utile. Non, il y a des cadres internationaux. Et tout à l'heure, j'ai été marqué par le témoignage d'Issa, jeune Sénégalais, qui intervient au Brésil. Ben voilà, lui, il tire parti, en fait, de ses origines, de ses affiliations, de ses appartenances, pour apporter au Brésil ce qu'il est. Et donc, il n'y a pas de cadre hélicoptère.
Un ingénieur, je ne sais pas, bon, ivoirien qui travaillerait au Nigeria. Est-ce qu'ils se vivent comme expatriés? Également,
mais ils font l'expérience de l'étranger.
Parce qu'il y a une énorme mobilité sur le continent africain.
Mais bien sûr,
les compétences voyagent beaucoup.
Mais oui, il faut se méfier. En fait, la mondialisation n'est pas une vague uniforme qui invisibiliserait les différences. Pas du tout. Un jeune ivoirien au Nigeria, d'abord, il va pouvoir faire, je dirais, il va être aux prises avec des différences linguistiques. Bon, ça, c'est un phénomène évident et important. Et puis après, il va avoir, comme Patricia l'a évoqué, il peut avoir l'expérience du deuil, il peut avoir l'expérience du caractère lointain de sa présence, les liens avec sa famille. Donc, non, attention à une idée reçue qui consiste à penser que parce qu'il y a globalisation des sphères financières, eh bien, on ne se trouve pas à l'intérieur de nous-mêmes un peu étrangers. Donc, il n'y a pas d'international des cadres.
Vous pose la question parce que vous avez été DRH, Philippe Pierre, mais les directeurs de ressources humaines voudraient faire voyager énormément leurs cadres et justement trimballer les compétences partout pour aller toujours plus vite. Est-ce qu'il n'y a pas avec une vie passée à sillonner la planète, il n'y a pas un risque de perdre son identité? Il y a des expatriés qui,
non, on va se rendre
qui perdent la boule.
Peut-être, effectivement, j'ai vu des gens qui ne savaient plus bien à quoi ils appartenaient. Des enfants qui ont vécu toute leur enfance à l'expatriation, qui ont fait leurs études dans un pays étranger, qui n'ont pas vraiment ancré leurs racines quelque part. Mais on va voir que le vrai expatrié qui réussit le global sait très bien où sont ses racines. Il sait en sortir, il sait sortir de son cadre de référence, il sait penser autrement, il sait s'adapter à un environnement nouveau ou différent, mais plus que jamais, il sait très bien où sont ses valeurs. Ça n'est pas quelqu'un qui doit être en perte de valeur. Et je pense que c'est là où c'est très important de formaliser cette expérience, de mieux la travailler, parce que tout ce dont on parle, et c'est du domaine de l'informel, mais on peut le formaliser aujourd'hui. Grâce au management interculturel, on sait mettre des mots sur ces choses ressenties et faire en sorte que Isa ait les compétences pour rentrer dans son pays. On peut le faire.
Philippe Pierre.
Tout acte de gestion est situé culturellement. il n'y a pas un bon modèle de management qui serait porté par des cadres en expatriation et qui fonctionnerait partout. On peut être nocif en Afrique et utile en Asie. Ça, c'est vraiment une conviction chez moi. En effet, le management interculturel nous amène à déconstruire l'idée qu'il y a des cadres partout, hélicoptères adaptables. On cultive, certes, des compétences à l'étranger, mais elles sont situées par rapport au lieu où on a exercé. Et donc ça, c'est un point important. Le deuxième point, c'est que moi, je viens d'un monde, il y a 20-25 ans, on envoyait des fax aux expatriés. Aujourd'hui...
On se parle par Skype.
Eh oui. Aujourd'hui, la question, c'est comment je crée de la confiance avec des partenaires de travail que je vois peu ou pas. On est dans une virtualisation du contact à l'échelle de la mobilité internationale qui est passionnante et qui est un enjeu vraiment fort pour les DRH en entreprise.
Je voudrais qu'on dise un petit mot du retour, parce que vous aviez l'air de dire en première partie d'émission, Patricia Glazel, que le retour, il peut être très dur et on peut être très déçu finalement de ne pas parvenir à bien valoriser son expérience internationale.
C'est ce que vit la plupart des expatriés à leur retour. C'est ce qu'ils vivent, c'est ce qu'ils rencontrent. 62% vont quitter leur entreprise, ce qui est une perte de l'investissement, le retour sur investissement est complètement anéanti.
Ailleurs, ils vont parvenir à
mais ils vont
valoriser
tout leur savoir-faire, bien sûr qu'ils vont le valoriser, mais eux-mêmes ne l'auront pas formalisé. Et c'est là qu'est le danger, c'est que ça va être une espèce de course pour pouvoir rebondir, liée à une frustration subie, certes, mais qui tout ça peut s'éviter. J'insiste bien, en étant formé en amont sur les compétences, on peut éviter ce choc du retour.
Pensons aussi à un médecin qui a fait ses études au Sénégal et qui vient en fait en France, la reconnaissance des diplômes se fera ou ne se fera pas. Et là, vous êtes devant une situation intéressante.
Là, on a un clivage nord-sud.
Là, vous avez un clivage nord-sud et qu'il faut prendre en compte dans notre réflexion. Donc, le choc du retour, oui, il existe fort.
Merci à tous les deux. Patricia Glazel de Berlitz Consulting. Philippe Pierre, vous avez publié Les discriminations cavaliers bleus et puis également pour un management interculturel. N'oubliez pas aussi que sur notre site RFI.fr, à la page des 7 milliards de voisins, vous trouverez des liens bien utiles vers des études, des articles sur la mobilité professionnelle. Vous pouvez aussi écouter nos émissions en podcast, à réécouter par exemple dans les embouteillages des grandes villes. Voilà, ça fait passer le temps utilement. Demain, 7 milliards de voisins, grandir sans son papa, de plus en plus d'enfants de l'Amérique à l'Afrique, grandissent sans leur père, élevés par leur mère. Que dire à ces enfants lorsqu'ils demandent « Il est où mon papa ?» Comment les aider à se construire ? Vos témoignages de mère ou d'enfants presque sans père, dès maintenant au 33 1 56 40 21 71. Voilà, avant de se quitter, un grand merci, je ne le fais pas tous les jours, j'ai pas toujours le temps, à toute l'équipe de 7 milliards de voisins, Cécile Lavolo, Véronique Durand, Romain Dubrac et Didier Cherouz aujourd'hui. À demain, même heure, même endroit sur RFI.